Chapitre 4. Claude Forest se retira un peu à l'écart, dans un angle sombre, pour suivre le cours de ses pensées. Une inspiration lui était venue. Pourquoi ne pas la suivre? Pourquoi ne pas tenter de se faire connaître comme compositeur? Ce soir, le hasard lui avait peut-être révélé sa véritable veine. La musique d'église n'était pas son affaire, les classiques lui inspiraient un respect assez froid. Il faut l'avouer, le sentiment du grandiose lui manquait. Ce qui parlait le mieux à son sens sous-moderne, c'étaient les mélodies exquises de Massenet ou ces choses capricieuses, raffinées et sourdement tristes, que Schumann a su dire dans sa langue étrange. Plusieurs fois déjà, Claude Forest avait tenté d'exprimer quelque émotion intime dans un fragment mélodique resté inachevé. Ses compositions imparfaites et frustes n'étaient pas sans quelque originalité, croyait-il. Mais quand, dans l'un de ces jours où l'on voit tout en gris, il les reprenait pour leur donner la dernière touche, il les trouvait banales ou ampoulées, il y découvrait des réminiscences et, pour finir, les jetait au feu. Ce soir, pourtant, une espérance, présomptueuse peut-être mais tenace, s'empara de lui et le poussa en avant. À la fin de la soirée, quand il remonta dans sa chambre, il avait son plan tout fait et s'était juré de livrer sa première bataille dès le lendemain. Il passa toute la nuit devant sa table, tantôt la tête dans ses mains, tantôt jetant fiévreusement des notes sur le papier. Son piano était ouvert, il en effleurait les touches avec un grand désir de les faire résonner, mais l'heure était tardive et M. Gibson, un voisin peu endurant. Claude s'efforçait de suivre en esprit sa mélodie. Après en avoir noté une phrase, il la fredonnait à bouche fermée. Par un grand effort de concentration, il entendait presque les accords muets que sa main faisait frémir sur le clavier sans oser leur donner une voix. Dans le silence de la maison endormie, il croyait saisir des vibrations subtiles qui montaient jusqu'à lui, le heurtaient comme d'un léger choc magnétique et s'évanouissaient. L'oreille tendue, il en suivait l'écho vague et léger, les transcrivait en toute hâte, mais désespéré d'en emprisonner dans une formule la finesse immatérielle. La dernière mesure était écrite. La plume tomba sur le papier. Claude, le front dans ses mains, écoutait les harmonies qui montaient, toujours en le berçant. Vague, lointaine, elle s'éloignait. Sa tête fatiguée s'inclina sur ses deux bras, il n'eut plus conscience de rien, sinon d'un profond et bienfaisant silence. L'aube jaune et morne le réveilla. Des moineaux criards se querellaient autour de sa fenêtre, le brouillard était aussi intense que la veille. Il s'étira en frissonnant. Sa tête était lourde, ses membres douloureux et raides. Après avoir eu recours à une abondante aspersion d'eau froide, il fit sa toilette. Il n'osait tourner ses yeux vers la feuille notée qui s'étalait au milieu de la table avec la plume jetée en travers. Il avait été en proie à une hallucination, lui semblait-il. Sa composition serait sans doute incohérente et bizarre comme un rêve. C'est à peine s'il en retrouvait le motif dans son esprit ensommeillé. Cependant, dès qu'il entendit M. Gibson remuer derrière la mince cloison qui séparait les deux chambres, Claude Forest s'assit au piano et joua d'un bout à l'autre sa première production complète. Puis il essaya de se recueillir pour se juger lui-même. « C'est simple, se dit-il, et cela ne manque pas d'un certain pathétique. Comme facture, c'est correct. Je n'ai pas étudié les maîtres en vain. Mais que je suis loin d'avoir rendu ma conception première, il y a un long chemin de l'esprit à l'instrument. Le meilleur de l'inspiration s'évapore en route. » Cependant, le motif principal était de franche venue, tout d'un jet, une vraie inspiration. Malgré des longueurs, une ou deux reprises mal amenées, Claude ne put s'empêcher d'être satisfait de son œuvre. Jusqu'à l'heure du déjeuner, il corrigea, retrancha des stocks et de tailles, puis mit au net son grimoire et descendit d'un air très résolu. « Souhaitez-moi bonne chance, » dit-il à Olive, qu'il trouva seule dans la salle à manger. « En quoi ? » demanda-t-elle. « Vous le saurez quand j'aurai réussi. Promettez que vous ferez des vœux pour moi tout le jour. »« S'il s'agit de musique, je ne saurai, » dit-elle en secouant la tête. « La musique est ma grande abomination, le fléau de ma vie, la seule chose, je crois, que je déteste de toutes mes forces. » En tout cas, elle vous rend éloquente, fit Claude légèrement blessé. Que voulez-vous ? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ah, quel dommage que vous aimiez tant la musique !
Pourquoi ? Fit-il vivement en s'approchant d'elle.
Mais elle baissa la tête et feignit d'effacer sur le couvercle de la théière une tache invisible. Le déjeuner fut silencieux. L'heure vint bientôt où chacun dut se rendre à son devoir journalier. Olive Beaumary s'enveloppa en soupirant dans un grand mackintosh qui était pour elle l'emblème du froid humide, de la neige noirâtre de décembre, des giboulées du printemps, des courses à travers les voitures qui vous éclaboussent, des vestibules sombres où un domestique prend d'un air rechigné votre manteau et votre parapluie, de la chambre d'études au troisième où des élèves maussades vous attendent, en un mot, de tout le côté rebutant de l'existence. Cependant, Olive, ayant pour toute fortune sa jolie figure et le nom gallois un peu romantique dont elle était fière, devait s'estimer heureuse de n'avoir jamais manqué de leçons et de gagner largement sa vie. Comme l'enseignement est en Angleterre la seule vocation réputée honorable pour une jeune fille, la seule qui permette à une femme bien élevée de gagner son pain, sans tomber dans un rang tout à fait subalterne, Olive avait été destinée à l'enseignement dès son enfance. Elle s'était soumise à cette nécessité avec une résignation plaintive, choisissant la musique, non par préférence, mais par indifférence. Elle avait un joli doigté et assez de patience pour faire des gammes pendant 3 heures sans regarder la pendule une seule fois. Ses études musicales, assez superficielles à la vérité, ne l'ennuyèrent pas trop. Elle les faisait machinalement en songeant à 1000 autres choses. Mais quand elle en vint à la pratique, Olive prit en grippe son métier. Elle était douce et indolente. Elle aimait le coin du feu en hiver, en été l'ombre du parc et ses horizons vaporeux. Elle avait des goûts simples et se serait contentée de peu si ce peu était venu de lui-même sans effort. Mais sortir tous les jours, quel temps qu'il fît, lutter contre sa fatigue, contre les tourderies de ses élèves, endurer de petites mortifications qu'elle sentait vivement car elle était fière, voilà ce qu'Olive Beaumary ne pouvait accepter avec philosophie. Chaque matin, elle reprenait sa tâche avec un grand soupir, trop faible pour s'y mettre courageusement, trop douce pour se révolter une bonne fois et chercher un autre gagne-pain. Elle savait bien, du reste, que sa gracieuse beauté ne se cacherait pas longtemps à l'ombre du foyer de Miss Picknell. Quelqu'un viendrait bientôt, il était peut-être déjà en route, et la délivrerait de sa servitude. En attendant, elle en voulait à la musique de ses ennuis journaliers. Elle la regardait comme une maîtresse tyrannique qu'on sert parce qu'il le faut et dont on mange le pain, mais que l'on quitte avec joie aussitôt qu'on aperçoit la moindre issue pour s'échapper. Claude Forest riait de cette haine véhémente à laquelle il ne croyait qu'à demi.